Cet article vous est proposé par l'AFIS, Association française pour l'information scientifique. Retrouvez les références ainsi que des encadrés complémentaires, dans la version texte, sur le site afis.org. Climatisation. Maladaptation ou nécessité face au réchauffement climatique. Symbole de confort moderne pour les uns, aberration écologique pour les autres, déjà vitale pour certains, l'usage de la climatisation est fortement débattu. Alors que le réchauffement climatique rend nos étés de plus en plus torrides, elle s'installe progressivement dans les foyers et déclenche son lot de débats et d'idées reçues. Est-ce une technologie particulièrement énergivore et polluante? Y a-t-il des alternatives préférables? Peut-on vraiment parler de maladaptation? Cet article propose de faire le point, en s'appuyant sur les données scientifiques disponibles, pour distinguer les faits des mythes. Un peu d'histoire. L'idée de rafraîchir l'air est ancienne. Dès 1842, le médecin américain John Gorrie conçoit une machine à fabriquer de la glace pour soulager ses patients atteints de fièvre jaune. Mais c'est en 1902 que naît la climatisation moderne, grâce à l'ingénieur Willis Havilland Carrier. Sa mission initiale n'était pas le confort des humains, mais le contrôle de l'humidité dans une imprimerie de Brooklyn, qui empêchait une impression correcte des couleurs. Son invention, qui permettait de maîtriser à la fois la température et l'hygrométrie, posait les bases de la technologie actuelle. Le développement de la climatisation est indissociable de celui des fluides frigorigènes. Ceux-ci doivent avoir une température de changement d'état, liquide, gaz, proche de la température ambiante. Dans les années 1930, l'ingénieur et chimiste Thomas Mitchell Jr. met au point les chlorofluorocarbures, CFC, plus connus sous le nom de marque Freon. Jugés miraculeux, car stables et non toxiques, ils démocratisent le réfrigérateur et le climatiseur. Il faudra attendre les années 1970 pour découvrir leur effet dévastateur sur la couche d'ozone. Après la Seconde Guerre mondiale, la climatisation conquiert le grand public, notamment aux États-Unis, transformant l'économie et la démographie de régions entières, comme la Sun Belt. Les températures d'été de la Floride, de l'Arizona et du Texas étaient jusqu'alors un repoussoir. Aujourd'hui, elle est devenue un équipement de masse dans de nombreux pays, et on estime qu'il existe 2 milliards d'unités en fonctionnement dans le monde.
Quels impacts néfastes ? Les critiques adressées à la climatisation se concentrent sur trois points. Sa consommation énergétique, la pollution des fluides frigorigènes en cas de fuite, durant l'utilisation comme en fin de vie, et le rejet de chaleur dans l'environnement.
La consommation énergétique. Un appareil de climatisation consomme de l'énergie électrique. RTE, le gestionnaire du réseau de transport, estime que les appareils de climatisation en France ont consommé, en 2020, 26 TWh. 6,3 pour le résidentiel, 19,7 pour le tertiaire, et que cette consommation pourrait monter à 32 TWh à l'échéance 2035, principalement du fait de la croissance du taux d'équipement dans le résidentiel. Cette consommation restera bien inférieure à celle du chauffage électrique, y compris les pompes à chaleur, qui étaient de l'ordre de 62 TWh en 2020. À titre de comparaison, la consommation électrique totale française est de l'ordre de 450 TWh. L'usage de la climatisation est logiquement plus important en été, en journée et en soirée. Cette consommation est néanmoins assez facilement absorbée par le réseau électrique, grâce notamment au parc photovoltaïque, dont la production est assez bien en phase avec l'usage de la climatisation, malgré un décalage de quelques heures. Notons que les climatiseurs sont efficaces en énergie, comme les pompes à chaleur, puisque 1 kWh d'électricité permet de fournir 3 à 4 kWh thermiques, en chaud ou en froid. Voir encadré ci-dessous, comment ça marche. Cette efficacité est cependant bien moindre pour les climatiseurs mobiles.
Il est intéressant de noter que le confort thermique apporté par les climatiseurs en été est décrié, alors que ce n'est pas le cas pour les appareils de chauffage qui apportent un confort similaire en hiver. Et ce, particulièrement en France, où l'énergie utilisée par les appareils de climatisation, électricité, est peu carbonée, contrairement à l'énergie consommée pour le chauffage qui repose encore beaucoup sur des énergies fossiles, gaz, fuel, GPL, voire la figure. La consommation énergétique de la climatisation en France reste modeste et restera, selon toute polidité, bien inférieure à celle du chauffage dans les décennies à venir, malgré le réchauffement et un taux d'équipement en hausse. Ainsi, les émissions de CO2 associées à la climatisation sont et resteront, en France, très inférieures à celles du haut chauffage.
L'effet de serre des fluides frigorigènes. Les fluides utilisés dans les climatiseurs ont des caractéristiques bien particulières. Ils sont choisis pour bouillir et se condenser à des températures et pressions bien précises. Comme ils fonctionnent en circuit fermé, les fuites dans l'environnement sont l'exception plutôt que la règle.
En pratique, elles surviennent surtout en fin de vie, lors de la destruction d'un appareil, mais peuvent se produire également en fonctionnement, notamment avec des appareils bas de gamme, compresseurs non étanches. Les gaz de première génération avaient le défaut d'être toxiques. Les CFC, chlorofluorocarbures, les ont remplacés à partir des années 1930 et jusqu'aux années 1980, lorsque leur impact néfaste sur la couche d'ozone a été découvert. Les fluides actuels, HFC, pour hydrofluorocarbures, sont stables chimiquement, non toxiques et peu impactants pour l'ozone. Cependant, ce sont des gaz à effet de serre très puissants. Il y a typiquement 1 kg de fluide frigorigène dans une unité de climatisation. Si ce fluide venait à fuir vers l'atmosphère, il représenterait l'équivalent d'une à deux tonnes de CO2 en termes de pouvoir réchauffant. Depuis le 1er janvier 2025, les fluides frigorigènes au pouvoir de réchauffement global supérieur à 750 sont interdits dans les nouveaux appareils, et la plupart de ceux supérieurs à 150 le seront à partir de 2027. À cette échéance, l'éventuelle fuite complète d'un appareil de climatisation aura alors un impact réduit à 150 kg d'équivalent CO2. Aujourd'hui, les estimations d'émissions de HFC en France, la plus grosse partie est en lien avec la génération de froid, industrielle, tertiaire et résidentielle, sont de l'ordre de 8 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, soit 2,4% des émissions nationales. Poussées par les évolutions réglementaires sur les pratiques et les fluides utilisés, ces émissions sont en diminution rapide, malgré un stock en augmentation. Il est nécessaire que cette tendance se poursuive pour accompagner les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. L'impact des fuites de fluides frigorigènes est donc significatif, bien qu'en diminution, et ce malgré un nombre croissant d'appareils en circulation. Cette amélioration s'explique par le renouvellement du parc, notamment automobile, et par les réglementations qui imposent désormais des fluides dont l'impact climatique est drastiquement inférieur à celui des générations précédentes. Un entretien régulier réduit également le risque de fuite durant la vie de l'appareil, et une collecte rigoureuse permet de récupérer le fluide afin qu'il ne soit jamais libéré dans l'atmosphère.
Le rejet de chaleur et les îlots de chaleur urbains. La climatisation extrait la chaleur d'un bâtiment pour la rejeter vers l'extérieur, contribuant ainsi au réchauffement de l'atmosphère environnante. La conservation de l'énergie implique que la chaleur totale rejetée en extérieur est la somme de la chaleur extraite de la pièce et de l'énergie électrique consommée par l'appareil. Ainsi, l'apport thermique net ajouté à l'environnement extérieur correspond précisément à la consommation électrique du climatiseur, de l'ordre de 1 à quelques kilowatts. À titre de comparaison, en France, le rayonnement solaire apporte une puissance maximale d'environ 1 kilowatt par mètre carré de surface au sol lors des heures les plus chaudes. Dans les zones rurales ou peu denses, l'impact des climatiseurs sur la température de l'air reste donc négligeable face à l'énergie solaire. En revanche, dans les centres urbains denses où le taux d'équipement est élevé, l'accumulation de ces rejets thermiques devient significative et participe activement au phénomène d'îlot de chaleur urbain. Voir l'article « L'îlot de chaleur urbain » dans ce dossier.
Ce phénomène désigne une hausse localisée des températures, particulièrement marquée la nuit, qui rend les centres-villes nettement plus chauds que les zones rurales périphériques. Il est le résultat de plusieurs phénomènes. D'une part, les matériaux, bitume, béton, qui emmagasinent la chaleur solaire pendant la journée pour la restituer la nuit. D'autre part, la réduction de l'évaporation par imperméabilisation des surfaces. Et enfin, les activités humaines, climatisation, chauffage, trafic routier, qui rejettent de la chaleur directement dans l'air ambiant. Dans une ville dense comme Tokyo, où la climatisation est omniprésente, une étude conclut que celle-ci augmenterait la température extérieure de 1 à 2 degrés. Pour la région parisienne, une étude a modélisé l'impact d'une climatisation généralisée à l'horizon 2100. Dans un scénario de canicule extrême, similaire à l'épisode de 2003, l'augmentation de la température de l'air extérieur due au rejet de chaleur serait supérieure à 0,25 degrés Celsius en moyenne sur l'agglomération, mais atteindrait un pic de plus 2,4 degrés Celsius dans les zones les plus denses, en dehors de Paris intramuros, durant la nuit. Ces chiffres sont à comparer avec les écarts de température entre Paris et la campagne environnante, qui sont de l'ordre de 4 à 8 degrés Celsius aujourd'hui, avec un taux d'équipement en climatisation relativement faible.
Du point de vue de la santé publique, le bilan est contrasté. À l'intérieur des bâtiments, le stress thermique est totalement annulé pour ceux qui sont équipés, offrant une protection vitale et une récupération physiologique complète aux occupants. Cependant, cette protection individuelle se traduit à l'extérieur par une augmentation moyenne de 20 minutes de la durée d'exposition quotidienne à un stress thermique élevé dans les rues, qui peut alors se propager aux logements non équipés. Cette situation soulève une question éthique majeure, celle d'une inégalité thermique croissante. La climatisation agit comme une protection efficace pour ceux qui y ont accès, mais elle transfère une partie de la charge thermique sur l'espace public. Ce dilemme oppose le droit individuel à la sécurité sanitaire en intérieur, à la responsabilité collective envers les populations les plus vulnérables, sans-abri, travailleurs en extérieur ou foyers précaires, qui subissent une atmosphère urbaine artificiellement réchauffée. Cette question éthique pousse à limiter l'usage de la climatisation autant que possible.
Demain, tous climatisés, le réchauffement climatique n'est plus une projection lointaine. Les vagues de chaleur sont déjà de plus en plus fréquentes, longues et intenses. Les résultats de l'étude mentionnée plus haut sur la région parisienne sont clairs. Les habitants y subiront à l'avenir un stress thermique très fort à extrême pendant de longues heures, que seule la climatisation peut totalement annuler. La climatisation apparaît donc de moins en moins comme un luxe et de plus en plus comme un outil de santé publique, indispensable pour protéger les populations vulnérables, personnes âgées, enfants, femmes enceintes, malades chroniques. Le GIEC lui-même l'a décrit comme « la principale méthode d'adaptation permettant d'atténuer les effets des températures élevées sur la santé ». Pour les personnes en bonne santé, la climatisation permet d'améliorer la productivité et le sommeil.
Quelles alternatives ? Bien que plusieurs pistes soient évoquées dans l'étude citée plus haut pour rafraîchir la ville à l'horizon 2100, chacune se heurte à des obstacles structurels, économiques ou environnementaux majeurs. Les chercheurs ont notamment testé la combinaison de trois leviers ambitieux. Une reconfiguration urbaine massive, allouant 10% de la surface de la ville à de nouveaux parcs, l'application de normes d'isolation et de matériaux réfléchissants à l'ensemble du bâti, hors centres historiques, et une stratégie de sobriété comportementale relevant les températures de consigne de la climatisation à 26 degrés C dans les bureaux et 28 degrés C dans les logements. Si la mise en œuvre simultanée de ces actions permet un rafraîchissement significatif de l'air extérieur, allant jusqu'à abaisser la température nocturne de 4,2 degrés C, elle s'avère insuffisante pour garantir la sécurité sanitaire à l'intérieur des bâtiments.
En effet, l'étude démontre que ces mesures structurelles et comportementales ne parviennent à amputer la durée du stress thermique élevé à l'intérieur, température ressentie supérieure à 32 degrés Celsius, que de seulement 1h et 23 minutes par jour. En l'absence totale de climatisation, les citadins seraient encore contraints de passer plus de 6 heures quotidiennes dans des conditions de chaleur extrême au sein de leurs habitations. Ce constat souligne les limites des protections solaires et de l'isolation qui, si elles retardent la chauffe, ne suffisent pas à évacuer la chaleur accumulée lors de canicules intenses et prolongées. De plus, si l'étude ne chiffre pas précisément le coût de ces transformations urbaines, leur déploiement à l'échelle d'une métropole représente un défi de financement et de mise en œuvre logistique dont l'ampleur reste à évaluer. La végétalisation massive rencontre également une limite environnementale critique. Pour que l'effet de refroidissement par évapotranspiration soit optimal, les parcs doivent être abondamment irrigués en période de stress hydrique sévère, créant un conflit d'usage insoluble avec les besoins en eau. Pour Paris, ces besoins seraient de l'ordre du début de la Seine en été, ce qui rend cette stratégie irréaliste en contexte de sécheresse. Voir l'article « Végétation urbaine et îlots de fraîcheur » dans ce dossier.
À l'échelle individuelle, d'autres solutions de bon sens comme l'usage de ventilateurs ou la surventilation nocturne montrent aussi leurs limites. Si le ventilateur améliore le confort ressenti en favorisant l'évaporation à la surface de la peau, son efficacité est réduite aux très hautes températures et il peut accélérer la déshydratation. De même, l'ouverture des fenêtres la nuit ne suffit plus lors des épisodes caniculaires où la température ne descend plus sous les 20 degrés Celsius. Sans oublier les contraintes liées au bruit ou à la sécurité qui peuvent entraver cette pratique. En définitive, bien que ces différentes solutions soient utiles et gagnent à être combinées si le but est de limiter l'usage de la climatisation, elles ne permettent pas de s'y substituer entièrement. L'étude démontre que la climatisation reste le seul outil capable de supprimer totalement le stress thermique intérieur. La climatisation apparaît donc comme l'ultime solution garantissant la sécurité sanitaire des occupants lors des vagues de chaleur futures. Les autres mesures ne faisant au mieux que limiter marginalement la durée du danger.
Conclusion. De problème à solution. La stigmatisation de la climatisation dans le débat public repose sur des arguments souvent partiels ou s'appuyant sur des technologies datées. Ces critiques pointent notamment l'usage de fluides frigorigènes à fort pouvoir de réchauffement, HFC, une consommation électrique jugée excessive ou une aggravation massive de l'îlot de chaleur urbaine. Si ces impacts environnementaux sont réels, ils s'avèrent aujourd'hui techniquement gérables. L'électricité peut provenir de sources bas carbone, les fluides sont de mieux en mieux réglementés avec des filières de recyclage obligatoires, et l'effet sur la chaleur urbaine est négligeable en dehors des zones de forte densité, s'il est notable dans les zones denses, il est malheureusement incontournable.
Plus qu'un simple outil de confort, la climatisation s'inscrit, selon les données de santé publique, comme la seule solution efficace pour protéger les populations vulnérables lors des épisodes de canicules extrêmes. Au-delà du refroidissement, la climatisation réversible, pompe à chaleur RR, représente une opportunité pour décarboner les logements. En effet, le chauffage, encore très dépendant du gaz fossile, représente une part bien plus importante des émissions globales que le refroidissement. Le remplacement d'une chaudière à gaz ou au fioul et l'installation d'un système unique, alimenté par une électricité peu carbonée pour chauffer l'hiver et rafraîchir l'été, offre ainsi une voie pour réduire l'empreinte carbone globale du bâtiment. Dès lors, la réflexion semble pouvoir se déplacer d'une opposition binaire pour ou contre vers un pilotage technique et raisonné. Encourager les appareils les plus performants, assurer une maintenance rigoureuse pour prévenir les fuites, intégrer ce refroidissement dans une approche globale combinant isolation, protection solaire et végétalisation. Ainsi pensé, la climatisation ne constitue pas une maladaptation, mais une contribution à un futur plus résilient et moins carboné.